Puisse pas dans la bénédiction du vendredi soir aux enfants. Bien entendu, nous avons les avotes, nous avons les repères, nous avons les modèles. Mais ce n'est pas la conduite de la Torah qui passe par là. Je ne comprends pas en quoi ta question serait une question.
Que les trois ensemble.
Que
les trois ensemble, y compris David, ça pourrait être un modèle. Répète. Les trois avotes.
Non mais je vais vous dire, c'est tout Israël qui est Israël. Tout Israël, c'est David dans une modalité, c'est Abraham dans une autre modalité, c'est Isaac dans une autre modalité, mais c'est tout Israël. Il faut que les 600 000 âmes d'Israël soient là pour qu'Israël soit là, ensemble. Avant de distribuer, tu vas dire les communications que tu as dit.
Ah, maintenant ?
Oui, parce qu'après on va oublier.
Les cours réguliers reprennent dimanche qui vient. Vous avez le programme pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu ici au bureau. Mardi soir prochain, il y a une conférence de vous, Manitou.
Ah bon, demain ?
Oui.
Tu as fait de me dire.
Voilà. Unité de doctrine et multiplicité des tendances selon le judaïsme talmudique. C'est la conférence qui introduit le cours d'Alain Michel.
D'accord.
Donc c'est mardi soir prochain à 20h30. Ensuite, je reviens de suite.
Et où est la Gemara? J'ai pas dit votre question.
Le livre de Manitou est sorti, en hybride. Voilà, ça sort. Il coûte 20 shekels. Si vous voulez l'acheter, il est ici aussi au centre. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura à votre disposition aussi l'enregistrement vidéo de la soirée d'anniversaire. Vous pourrez aussi acheter les cassettes au centre.
Ce que je vous demanderais surtout, c'est que de payer vos cotisations, parce que nous avons énormément de frais, et que si vous payez pas les cotisations, on n'a pas de subvention. C'est clair.
Voilà, vous rapporte les cotisations pour l'année coûtent 150 shekels pour l'année, en personne, et si quelqu'un veut simplement payer par cours, c'est 5 shekels le cours.
Bien, vous payez à la sortie. Alors en tout cas, je reviens au sujet. L'exemple que tu as donné, c'est l'exemple d'une bénédiction qui est transmise en référence à un événement qui s'est produit dans l'histoire d'Israël. Ça ne veut pas du tout dire que tu vas donner à ton fils comme exemple, comme modèle dans la vie, Ephraïm ou Menaché. Tu comprends ? Tu comprends pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire une bénédiction ? Qu'est-ce que ça veut dire une bénédiction ? Dis-le moi en hébreu. Braha, qu'est-ce que ça veut dire braha en hébreu ? Ma ? Pas l'effort, je peux. Non, tu as dû entendre quelque chose qui est un peu loin de la question. Qu'est-ce que c'est une braha en hébreu ? Quelle est la formule de la braha en hébreu ? Parle plus, enfin, parle un seul qui parle plus. Non, ça c'est ça. Non, ça c'est. Oui, ça c'est déjà mieux. Non, prenez historiquement la première bracha, la première formule de la bracha. Même historiquement. Pérouse. Réfléchissez logiquement toujours. L'histoire commence à Adam Arishon. Et la première bénédiction, c'est Adam Arishon qui l'a reçue. Pérour. La bénédiction, c'est le souhait de fécondité. Et le fait de bénédiction, c'est le fait de fécondité. En hébreu, on dit d'une chose ou d'un être qu'il est béni lorsqu'il est fécond. Ça veut dire plus que lui-même. Or, parmi toutes les bénédictions qui ont été transmises aux héros de l'histoire d'Israël, c'est celle de Ménaché et d'Éphraïm qui a été choisie par la tradition comme étant la bénédiction de fécondité la plus grande. Avec comme modèle le fait que Jacob a béni ses enfants en bénissant Ephraïm et Ménaché. Ça ne veut pas du tout dire que on va donner à l'enfant pour qui on souhaite cette bénédiction-là la religion d'Ephraïm et de Ménaché. C'est cette distinction qu'il faut faire. Ta question est entrée par la bande, enfin indirectement, à propos du fait que la tradition ne prend pas pour point de départ un héros individuel, mais l'histoire de la collectivité d'Israël. L'exemple le plus frappant qui a été mis en évidence par le Gaon de Vilna, c'est la Agada de Pessah, où il n'y a pas allusion à Moïse. Pour, pas qu'on ait, pour qu'on évite le risque de ce qu'on pourrait appeler le culte de la personnalité, qui est le commencement de l'idolâtrie. Et je le dis intentionnellement, parce que nous avons énormément de sectes religieuses juives actuelles, où on est en plein dans ce défaut. Et je ne pense pas à celle que vous pensez, parce qu'il y en a trop. Il faut se rassurer, c'est pas nouveau ces déviations dans la société juive. C'est depuis l'origine de l'histoire d'Israël, nous sommes des experts en fabrication d'hérésies. Nous les juifs, nous avons inventé toutes les hérésies possibles, et imaginables. On a inventé le christianisme, on a inventé l'islam, on a inventé toute une série de ismes dont on n'avait aucune idée, y compris l'isme de Suez. Mais il y a aujourd'hui des rabbins qui sont en train de nous inventer le judaïsme. Ça, c'est le dernier, la dernière hérésie à la mode. Bon, alors réfléchis un peu dans ce sens-là.
Je peux vous demander pourquoi vous dites qu'ils ont inventé l'islam.
Oui, moi aussi.
Mais écoutez, parce que l'islam s'est fondé dans une aventure assez analogue à celle du protestantisme. Je commence par le protestantisme, Luther. Luther a souhaité être reconnu par les juifs comme étant le vrai Messie. Et comme il n'a pas été reconnu comme les juifs, comme étant le vrai prophète, le vrai théologien, le vrai Messie. Parce que Luther avait inauguré une réforme contre l'Église catholique, et il a pensé logiquement être reconnu par les juifs comme étant la véritable religion. Les juifs n'ont bien sûr pas accepté, et il en résulte que l'antisémitisme luthérien, protestant luthérien, je ne parle pas des calvinistes, est plus terrible que celui des catholiques. La Shoah est sortie des Allemands luthériens, plus que des catholiques. L'Inquisition est sortie des catholiques. Et puis, il est sorti des nazis, bien sûr, mais les nazis étaient luthériens. J'ai eu à m'occuper de la conversion au judaïsme de la petite fille du maréchal X, qui était le chef d'état-major de Hitler. Et c'était une famille de luthériens pieux. Pour vous dire, elle va avec Mahomet, c'est la même chose. Mahomet a espéré se faire reconnaître par les juifs de Médine comme étant le véritable prophète, et il n'a pas été reconnu, mais il a étudié chez les rabbins. Et c'est pour ça que le Coran est plein de midrashim mal digérés. Comment ? Il n'était pas juif, il était arabe. Mais il a étudié d'abord chez les rabbins, et ensuite il a étudié aussi avec des curés, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si vous avez lu le Coran. Vous avez lu le Coran ? Ben, on n'a pas le temps à perdre. Mais si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il y a des traces de midrashim coranisés. Quand je discutais de ça avec des théologiens musulmans, en général, les théologiens musulmans que je connais ne sont pas arabes, les arabes ne veulent pas nous parler. Mais je me rappelle, j'en ai discuté avec des Indonésiens, des Pakistanais, qui sont en général beaucoup plus compétents que les Arabes eux-mêmes sur la théologie musulmane. Eh bien, ils nous répondaient avec une candeur musulmane que c'est les Juifs qui avaient copié sur le Coran. En tout cas, en plus, oui. C'est pour la réponse à votre question. Vous avez fréquenté la communauté musulmane ? Ils ont des quasi-mitzvot qui sont des approximations du Shulchan Aruch juif. Et comme précisément les juifs n'ont pas voulu reconnaître Mahomet, il les a massacrés à la tête de ces tribus arabes. Il faut étudier tout cela. Bien. Alors écoutez, vous allez prendre cette page. Tout le monde a une page ? Non ? Non ? Très bien. Et la mettre à la tête passée. Faites passer derrière. Voilà. Alors vous allez prendre suivez un sur deux. Voilà. Vous allez prendre, je vais dire à quelle ligne ? À la quatrième ligne par en haut. Est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait une loupe dans sa poche ? Je n'ai pas la mienne. Non ? Non. C'est loupé.
Si, j'ai la loupe.
aussi. Voilà. Voilà. Alors vous lisez. Enfin, vous suivez avec moi. Amar Rabbi, Amar Rabbi Levi Bachama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Levi Bachama a enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Le'olam, dans tous les cas, en tout cas, toujours, Yargi Zadam Yetserto al Yetserar. L'homme doit exciter son penchant au bien contre son penchant au mal. Et voilà quels sont les attendus du problème moral. Il y a un penchant au bien, un penchant au mal. Nous sommes constitués de ces deux penchants. Il ne faut pas feindre que ça vient de l'extérieur de nous. Si j'ouvre une petite parenthèse, il y a quatre doctrines à ce sujet. Certains vous diront que naturellement l'homme est bon, le mal lui vient de l'extérieur. Par exemple, ce que les commentateurs font dire à Rousseau, ça vient de la société. Lisez bien Rousseau dans le texte, vous ne savez pas exactement comme ça, chez Rousseau. Mais première thèse. Deuxième thèse, que l'homme est fondamentalement mauvais et le bien lui vient de l'extérieur, ça c'est les gnostiques. Et puis, vous avez une troisième thèse qui dira que c'est la thèse matérialiste en général, que l'homme n'est ni bon ni mauvais et que c'est indifférent le bien et le mal. Et puis, l'enseignement de la Torah, c'est que l'homme est constitué de deux tendances. De la même manière que un cœur a deux oreillettes et les vaves, et il faut unifier ce cœur, au niveau spirituel, ma tendance au bien, c'est moi, et ma tendance au mal, c'est moi. Et je ne peux pas ruser avec cela. Et je vous le signale en passant, il y a un sujet pour lui-même sur lequel il faut réfléchir, étudier et analyser. Mais je reschématise, vous trouverez dans l'ensemble des doctrines que ces quatre positions-là. Celle de la Torah, c'est que nous sommes constitués et d'une tendance au bien et d'une tendance au mal. Et alors, comment résoudre le problème moral? Parce que si la tendance au mal, c'est moi, autant que la tendance au bien, c'est moi, il y a une balance. Comment faire pencher cette balance du côté du bien? Eh bien, il faut que j'arrive à prendre du poids dans le plateau du mal pour le mettre dans le plateau du bien, pour faire pencher du côté du bien. En d'autres termes, le problème moral, pour être résolu, demande que l'homme ne soit pas neutre devant lui, qu'il soit véhément, yargiz, berogez, connaissez ce mot-là. Il faut se mettre en colère contre la tendance au mal, sinon on ne peut rien contre elle. Il y a en philosophie une notion qui est très claire. Le problème moral ne peut pas être résolu par les velléitaires. Celui qui dit « je voudrais bien faire le bien », la velléité. Il faut la volonté. Et pour que la volonté puisse triompher, faire triompher son choix, eh bien, il faut qu'elle s'engage. Je crois que cette notion-là pourrait être tenue. Il faut être engagé, en colère. C'est clair ? C'est ce qu'on appellera la ferveur dans le sens positif. Ce n'est pas la ferveur de l'esthète qui est une ferveur négative, mais la ferveur de l'engagement. S'il l'a vaincu au penchant au mal, mutab, tant mieux. Veimlav, et sinon, il y a un sourd à Torah. Qu'il s'occupe de Torah. Première surprise énorme. Quoi, la Torah ne vient que comme, palliatif à la bonne volonté. Pour que la volonté soit bonne, il faut s'engager. Et voilà, et si on a la bonne volonté, ça n'a pas réussi, occupe-toi de Torah. Retenez la difficulté, elle est énorme, apparemment. Chez Néhémar, parce que, je continue le verset des psaumes, le verset des psaumes commençait par dire « Rizou v'alteretaou » « Mettez-vous en colère et ne péchez pas ». La seule manière de se mettre en colère sans pécher, c'est mettre en colère l'instinct du bien contre l'instinct du mal. Vous avez compris le raisonnement ? C'est un verset des psaumes. Un verset des psaumes qui en lui-même est très difficile à lire en français. On le lit le soir avant de s'endormir. « Rizou v'alteretaou » « Mettez-vous en colère ». Mais ne péchez pas, et ne péchez pas. Imru bilbalprem. Parlez en votre cœur. Alors, parlez en votre cœur de quoi? De Torah. Imnetzachomuta, s'il l'a vaincu, c'est bien. Veimlav, ikra kriyashma. Et sinon, qu'il lise le kriyashma. Qu'il dise le shma. Ça commence à devenir incompréhensible. Il s'est occupé de Torah, il n'a pas dit kriyashma. C'est ça qui lui manquait. Alors, on lui conseille de dire kriyashma. Je continue. Shelema, amishtafrem. Parce que la suite du verset, c'était « Imru bilbalprem al mishkatrem ». Parlez en votre cœur sur vos couches. je continue. Il met sa chomuta, s'il l'a vaincu, c'est bien. Veimlav, et sinon, iskolo yomamita. Qu'il se rappelle du jour de la mort, qu'il se rappelle qu'il va mourir. Shenema, vedomu, c'est là, la fin du verset, et taisez-vous, c'est là, c'est la pause de la fin du verset. Alors, oui, la difficulté, je vais la simplifier, on a quatre de difficultés. En prenant la dernière, si l'arme la plus efficace, la stratégie la plus efficace, c'est de se rappeler qu'on va mourir, regardez la formule, se rappeler qu'on va mourir. Je ne suis pas déjà mort pour me rappeler. Enfin, se rappeler qu'on va mourir, histoire de l'Ogamita, et bien qu'ils nous disent tout de suite, tu veux résoudre le problème moral, et bien sache qu'un jour tu vas mourir, aie peur, tu seras jugé, c'est une stratégie piétiste qui existe, et qui serait beaucoup plus efficace que passer par l'étude de la Torah, et si ça ne marche pas, de l'Ogamita. Vous avez compris un peu la difficulté. En fait, pour résoudre cette difficulté, qui a une idée? Vraiment, j'ai amoncelé les difficultés, mais... Oui, il y a quatre forces auxquelles on fait appel. Premièrement, la force de la bonne volonté. Ça ne marche pas. Alors la connaissance, ça ne marche pas. La foi, Dieu est un, ça ne marche pas. Alors rappelle-toi que tu vas mourir, ça marchera. Alors ça veut dire il y a quatre motivations auxquelles on fait appel. Eh bien l'erreur, c'est de croire que c'est successif. En fait, pour résoudre le problème moral, il faut ces quatre forces à la fois. S'il y a eu échec, premièrement l'échec vient de ce que la connaissance a manqué. S'il y a encore échec, alors qu'on s'occupe de la connaissance, plus. S'il y a encore échec, c'est que la foi a manqué, alors qu'on s'occupe de la foi. Et s'il y a encore échec, c'est que l'engagement que ça me concerne, c'est moi qui vais mourir, que ça me concerne moi, c'est ça qui a manqué, l'engagement existentiel. Et alors, j'explique chacune pour lui-même. Alors, premièrement, pour la bonne volonté, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, la bonne volonté doit être engagée avec véhémence. Deuxièmement, il y a Assur Batora. Et c'est là que je rejoins le point où nous étions tout à l'heure. Voilà que j'ai la bonne volonté, et je ne réussis pas. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à savoir vraiment ce qui est bien et ce qui est mal, alors je renonce. Où vient le renoncement? Ce renoncement, c'est à la sortie de l'adolescence. Alors on entre dans le compromis avec la société des adultes. Ça commence par l'adultère, qui est la maladie des adultes, d'ailleurs. Et puis, on a renoncé à l'engagement de l'adolescence, de l'enfant, de l'adolescence. La première pierre d'achoppement, si vous voulez, ça a été défaut de la connaissance claire, où est le bien, où est le mal. D'où l'importance de la définition de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est d'étudier de telle sorte de distinguer les avdil, ben tov, les rares. Et vous rappelez que le Kohen, qui devait dire quelle est la différence entre le Kodesh et le Chol, le tov et le rare, il était interdit de prendre des toxiques avant de fonctionner comme Kohen. Le Kohen ne buvait pas de vin. Et vous avez compris comment ça marche avec la faute du premier homme. Okay? D'ailleurs, ça a été aussi la faute de Noir. Quand l'humanité a recommencé, Noir a planté une vigne et s'est enivré. Et la catastrophe a recommencé à travers le... J'ouvrirai une parenthèse là-dessus, ça a été étudié par les psychologues, c'est qu'il y a une tendance de l'humanité, dans l'humanité, à la recherche des toxiques. Parce que la recherche... la drogue, l'alcoolisme, la drogue, etc. Parce que ça met dans un état au-delà du bien et du mal. On est tellement, comment dire, on a tellement le désir d'échapper à cette tragédie de la conscience morale, où est le bien, où est le mal, et alors lorsqu'on est en état d'intoxication, eh bien on ne perçoit plus la différence entre le bien et le mal. On n'arrive plus à distinguer entre Haman et Mardoché, si vous voulez. Alors il y a un psychologue, c'est classique dans l'histoire de la psychologie, qui s'appelait William James, un pragmatiste anglais. Il s'est volontairement intoxiqué au peroxyde de manganèse pour essayer de comprendre ce que vivaient les intoxiqués. Et alors il a noté qu'il était dans un monde d'émerveillement intellectuel, il comprenait tout, et il n'y avait plus de différence entre le bien et le mal. Jusqu'à ce qu'il s'est réveillé, il a vu que c'était des gribouillages informes qu'il avait pris dans ses notes, mais voilà quel était le résultat de son expérience. Je reviens au sujet. La première dans l'ordre des causes d'échec, c'est le manque d'une connaissance claire, où est le bien, où est le mal. Et là, il y a un piège. C'est la bonne volonté risque de tomber dans la maniaquerie si elle n'est pas éclairée par une véritable sagesse. Parce que le scrupule hypertrophié, c'est une maladie mentale. Ça s'appelle d'ailleurs la scrupulite. Et je voudrais dire qu'il faut être en garde. Tout rituel entraîne le risque de la maniaquerie. Et s'il y a des médecins parmi vous, savent à quel point être maniaque en psychiatrie, c'est grave. D'ailleurs, c'est passé dans le vocabulaire israélien quand on traite quelqu'un de maniaque. Et il faut bien se méfier. C'est le problème de la casuistique. La casuistique, c'est une science noble. C'est l'étude des cas de conscience. Lorsque deux devoirs, deux vertus sont en compétition, ça c'est le problème du tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui, je répète ce que je disais tout à l'heure, le tzaddik, c'est pas tellement celui qui a choisi entre le bien et le mal. Ça c'est l'homme normal qui réagit normalement comme cela. Je préfère le bien au mal. Il faut être pervers. Pervers dans le sens étymologique, c'est-à-dire malade, atteint d'une malformation humaine pour préférer le mal au bien. Il y a des gens qui aiment les nourritures faisandées. Bon, ça existe. C'est pas caché. Le scrupule demande cette science qui s'appelle la casuistique, l'étude des cas. Mais si on ne prend pas garde, on risque de tomber dans des hypertrophies de scrupulisme, de maniaquerie, et toutes les orthodoxies sont candidates à ce piège-là. On n'a aucune idée à quel point ça peut arriver dans la société israélienne contemporaine. Quand les rabbins orthodoxes commencent par vous dire le din au milligramme près, vous avez compris l'allusion, ok, ça devient suspect. Ça veut dire que il y a ici une incapacité d'accéder à l'aisance dans la connaissance entre le bien et le mal. Je cherche un terme en français. Ça tombe dans l'obsession. Tout ça, c'est pas normal. Dieu n'a pas créé des obsédés. Obsédés religieux. C'est une maladie très grave. En tout cas, ces gens-là ont un grand mérite. Ils nous font comprendre d'où sort le jésuitisme et le christianisme en général, d'ailleurs. Bon, je vois, pour revenir au sujet, voilà dans l'ordre. S'il y a échec, c'est que la bonne volonté n'est pas suffisamment engagée. Et alors renforcez la bonne volonté, mettez-vous en colère contre le mal. Et puis il y a encore échec, c'est qu'il y a une faiblesse dans Yahasok Batorah. Et ça n'a pas marché. Alors là, il faut rentrer dans une analyse plus fine. Qu'est-ce que dit la Gemara ? Il a oublié de dire le Kriyat Shema. Il n'a pas dit Kriyat Shema. Qui dit le Kriyat Shema ? Qu'est-ce que nous disons dans le Kriyat Shema ? Que Dieu est un. Alors je vais vous dire ce qui se passe entre l'étude de la Torah qui a échoué et la nécessité de se rappeler que Dieu est un. L'étude de la casuistique risque de me faire oublier qu'il y a une solution possible. Plus j'étudie le bien et le mal, et plus je me rends compte que je ne peux pas m'en sortir. Ça veut dire que la connaissance du bien et du mal font que je désespère. Depuis que l'humanité existe, depuis que notre tradition existe, depuis que les rabbins existent, ils étudient comment distinguer le bien du mal et on n'y arrive pas, alors on renonce. Et je crois qu'une des voies, une des occasions de l'échec, c'est quand finalement l'étudiant du Shuranahour se rend compte qu'il est devenu maniaque. Alors il renonce. La plupart du temps, on croit, et on s'arrête là, l'échec est grave, la condition humaine, c'est cette malédiction d'être crucifié perpétuellement entre le bien et le mal, et l'obsession jusqu'au détail infime. Mais les médecins connaissent bien ce genre de déviation de santé mentale et morale. Alors il faut se rappeler que oui, on peut maîtriser la différence entre le bien et le mal, parce que Dieu est un, et qu'il est au-delà et au-dessus de cette différence entre le bien et le mal. Donc, il crée le Shema. Oui, on fait appel au secours, à la lecture du Shema, pour restaurer le fait que la loi sans la foi peut échouer. C'est précisément du dedans de la loi elle-même que l'échec vient. À force d'étudier la loi, on finit par perdre foi que la solution existe. On est perpétuellement, dans cette obsession du scrupule, et le Talmud parlant de cela a une formule extraordinaire. Inken en la dabar sof. C'est-à-dire, arrête-toi quelque part, parce que sinon la chose n'a plus de fin. Et vous avez remarqué à quel point les différentes sectes de ce type surenchérissent l'une sur l'autre, au point qu'ils s'excommunient pour des coupages de cheveux en 78, sur des têtes d'épingles. Je me rappelle d'une. Mais ils s'excommunient vraiment. Okay. Je me rappelle d'une émission à la télévision israélienne où l'intervieweur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, interrogeait un représentant des yeshivot lituaniennes pour lui demander ce qu'il avait contre les Lubavitch. Et c'était d'ailleurs à l'époque de Sukkot. Alors à la télévision, je crois avec beaucoup d'humour d'ailleurs, le yeshiviste lituanien, avec une indignation non feinte d'ailleurs, dit « mais ce sont des hérétiques ». Ils autorisent, dans certains cas, à ne pas dormir dans la soukha. C'est la fin du monde. Je sais pas si vous voyez. Mais avec une indignation non feinte. Enfin, une indignation authentique. Je dois vous dire que l'Israélien Chiloni qui a interviewé était complètement déboussolé. Voilà. Et voilà sur quel point de la Gemara nous sommes. Okay. Si, malgré la bonne volonté, il y a échec de la conscience morale, c'est que la connaissance était faible. Alors renforçons la connaissance. Et si malgré cela il y a échec, c'est qu'il y a manqué la foi. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ça, ces gens qui étudient la Torah qui n'ont pas la foi? Sortez dans la rue juive et vous allez les rencontrer. Vous avez compris au-delà de quelle objection je vais. Apprenez l'histoire. Toute notre histoire est pleine de ces avatars du courant sadducéen qui sont des spécialistes de la loi et des négateurs de la foi. Mais de quelle foi il s'agit? Que Dieu est un. Si Dieu est un, il y a une solution. Le bien peut triompher du mal. Parce que la question est comme cela. Depuis que le monde existe, on fait lutter le bien contre le mal et il n'a pas encore triomphé. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si déjà le bien n'a pas triomphé du mal, ça veut dire qu'il ne faut pas compter qu'un jour il y arrivera. Pourquoi tu oublies qu'il y a un Dieu, un? Voilà, il crée Kriyachma. Quelle est ta question? Parle plus fort parce que j'entends pas. Parle distinctement.
Cette connaissance du bien et du mal, nous faisons même la différence du bien et du mal. C'est cet arbre qu'ils ont mangé apparemment?
Oui, ils ont mangé d'un fruit qui donne cette connaissance. Pour les kabbalistes, ce fruit, c'est la Mishnah. La Mishnah, où le bien et le mal est mélangé, on a besoin de la Gemara pour distinguer où est le bien et le mal. D'ailleurs, vous avez deviné, dans l'autre étude, l'ordre, c'est l'arbre de vie, c'est la Kabbalah, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le Talmud. C'est dans le Talmud qu'on étudie comment distinguer le bien du mal. Alors, il y a un ordre. Et je vais vous étonner. D'après ce qu'on a appris, non, c'est la Kabbalah d'abord, le Talmud après. Or, on sait que c'est l'inverse. Qui peut résoudre? Non. Je reprends ma question. Restez dans les termes de la question, t'as répondu à côté. La consigne est que on étudie d'abord le Talmud et après seulement on accède à la Kabbalah. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on a appris ici? D'abord l'arbre de vie, la Torah. Les deux, c'est Torah. D'abord, je reprendrai cette question un peu plus en détail tout à l'heure dans la suite, mais d'abord, l'arbre de vie, Esraïm, vous savez que c'est le nom du livre du Hari, Esraïm. Et après, Shulchan Aruch. D'ailleurs, ceux qui ont étudié Shulchan Aruch, ça vous dit quelque chose, les Tourim? Hein? Le Tour, vous savez ce que c'est? Le Tour, Shulchan Aruch. Eh bien, prenez le mot de Tour. Tov Vara. Vous voyez, Tour. Alors, la difficulté reste. D'après cette étude, l'ordre normal que Dieu souhaite, d'abord tu apprends la Kabbalah, alors après quand tu apprends le Talmud, ça ne fait pas de mal. Maintenant, si tu apprends le Talmud d'abord, tu n'arriveras jamais à la Kabbalah. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. La consigne qu'on nous donne, c'est 40 ans de Talmud, et après, si Dieu veut, et que tu rencontres quelqu'un qui puisse t'aider, la Kabbalah. Vous voyez la contradiction? Bon, la réponse est simple. Écoutez, quand je suis en train de poser une question, ne posez pas une question supplémentaire. J'attends une réponse. C'est l'ordre pour le maître et l'ordre pour l'élève. Pour le maître, c'est Kabbalah d'abord et Talmud ensuite. Et pour l'élève, c'est Talmud d'abord et Kabbalah ensuite. Pour le maître, le Talmud procède du sens de la Kabbalah. Pour l'élève, c'est le Talmud qui mène à l'accès à la Kabbalah. Ça y est, c'est clair ? Donc, il n'y a pas de difficulté. Quelle est ta question ?
Oui, dans ce Mahamar de Rabbi Levi, est-ce que c'est un débat, ce débat de conscience, est-ce que c'est un accident anormal de l'individu, ou est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire par lequel doit passer la conscience pour pouvoir s'élever ? Quand on dit que le tzadik tombe 1000 fois et qu'il se relève 1000 fois par rapport au rachat qui tombe 1000 fois,
7 fois.
Et je rattache ça à Kohelet.
Attention, pas trop de choses à la fois. Le début de ta question, ça suffit pour tout le reste. Regarde le premier mot de ce qu'a dit Rabbi Levi Bar Chama.
Le Olam.
Tu as ta réponse ? Sans arrêt, toujours, le Olam.
Donc ça veut dire que c'est un débat normal de la conscience.
Oui. C'est inéchappable.
On ne peut pas y échapper à ça.
Exactement. Le Olam. Je vais le dire autrement, on n'a jamais résolu le problème moral une fois pour toutes. Le Yetzer ressuscite à chaque instant. C'est clair, on ne peut pas ruser avec ça. C'est ta question. Mais tu réponds tout de suite, le Olam, dans tous les cas, sans arrêt. On n'est pas tzaddik un jour pour le reste de la vie, et le reste de la vie, on se démobilise. Voilà, c'est ça que le Rish Lakish dit. Il faut être en vigilance constamment, le Olam, toujours. Très bien pour cette question. Alors, je reprends. Vous avez vu les fluences, là, je ne sais pas comment dire, les séquences. La bonne volonté, il faut d'abord toutes les forces à la fois. Mais s'il y a eu échec, après la bonne volonté, occupe-toi de la connaissance de la Torah. S'il y a eu échec, occupe-toi de ce dont parle Kriyat Shema, la foi qu'on peut s'en sortir parce que Dieu est un. Je veux dire, celui qui est obsédé par le bien et qui cherche la vérité de la loi, finalement, risque de perdre la foi à cause de la loi. Parce que c'est tellement vrai que le bien, c'est pas le mal, et le mal, c'est pas le bien, que finalement, alors, où est la solution ? Il n'y a pas de solution, depuis que le monde existe, et le bien n'a pas encore réussi à triompher du mal. Je dis de manière simple, pour que la chose soit claire. C'est-à-dire, les fléchissements de la foi, les pertes de foi, les maladies de foi, si vous voulez, ça vient souvent du fait qu'on est persuadé qu'effectivement, le bien, c'est pas le mal, et le mal, c'est pas le bien. Mais alors, pourquoi ça continue encore ? C'est un combat perdu à l'avance puisqu'il n'est pas encore gagné. Ben, comment on pourrait le dire ? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Rappelle-toi que Dieu est un. Bon, et pourtant il risque d'avoir encore échec. Alors on dit, rappelle-toi que tu vas mourir. Je reprends, vous verrez comment Rachid nous aide à lire. On verra Rachid après. Tu vas mourir, ça veut dire que tu vas être jugé, ça te concerne. Je pourrais dire ceci, c'est un problème qui me dépasse. En Dieu, il peut être résolu, que Dieu le résolve. Mais moi, j'y peux rien. Alors on te répond, rappelle-toi que c'est toi qui vas mourir. C'est ton problème, c'est pas le problème. Mais c'est un texte extrêmement important. Okay. Alors, nous sommes entrés dans ce texte par le biais de ce point précis, c'est que le mélange dans la connaissance de l'homme entre le bien et le mal est une des raisons du fléchissement de la foi, du renoncement à la bonne volonté. Bien. Je vais continuer dans cette même Gemara. On va reprendre sur une expression de tout à l'heure. En deuxième position, Ya'asor Batora. Qu'est-ce que ça veut dire Ya'asor Batora ? Qu'il s'occupe de Torah. On serait tenté de dire qu'il étudie le Shulchan Aruch, qui lui explique où est le bien, où est le mal. Ça c'est permis, ça c'est interdit, etc. Avec le risque que En la Dabarsov, si on manque d'humour, on peut interdire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a une formule talmudique qui parle de Kocha de Etera. Comment on reconnaît la grandeur d'un Dayan, c'est quand il est capable d'autoriser. Parce que interdire, ça n'importe quel ignorant peut interdire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et le Kocha de Etera, ça veut dire la force du Heter. Ça veut dire qu'on étudie un cas et on établit la loi ne concerne pas ce cas. Il y a eu erreur de la part de celui qui a posé la question, il croyait que ça le concernait. C'est encore une fois tous les avatars du scrupule. Hein. Je dirais peut-être de cette manière, de manière pédagogique. Il y a des parents, et donc des éducateurs, qui commencent par dire à l'enfant, tu es coupable, arrange-toi pour te déculpabiliser. Je crois que la vraie pédagogie, c'est l'inverse. Il faut dire à l'enfant, tu es innocent, reste-le. C'est une toute autre consigne. Est-ce que c'est clair, si vous voulez ? J'en profite par association d'idées pour exprimer la, de cette même manière la consigne de la Torah par rapport au, à la Tshuva. Je me base sur le deuxième chapitre du Sefer Tanya, le début du Sefer Tanya. Avant que l'enfant naisse, on lui dit sois tzadik et ne sois pas rachar. Et même si. Bon, je ne continue pas la suite. Sois tzadik et ne sois pas rachar. La consigne est la suivante. Sois tzadik. Et si jamais tu as fait une faute, repens-toi. Alors que la vision de la loi qu'on trouve chez les premiers chrétiens, la panique qu'ils avaient devant la loi, c'est sois saint, si vous voulez, et fais attention. Si tu fais une faute, tu es perdu. Oui, ce sont deux perspectives pédagogiques même, radicalement différentes. Alors, je reprends ma question. Il y a Asur Batoa, on serait tenté de dire que le Talmud ici nous exhorte à rouvrir le Shulchan Aruch. On n'a pas suffisamment étudié le Shulchan Aruch, on ne sait pas où est ce qui est permis, on ne sait pas où est ce qui est interdit. Alors, on va voir ce même Rabbi Levi Bar Chama Ono, lui-même, Rish Lakish, va nous enseigner tout à fait autre chose. Vous suivez. Ve'ama Rabbi Levi Bar Chama, c'est la suite. Ama Rabbi Shimon Ben Lakish, Maï Dirtiv. Il cite un verset qui se trouve dans le chapitre 24 de l'Exode, lorsque Dieu dit à Moïse, je te donnerai les tables de pierre, vera Torah, et la Torah, vera Mizva, et la Mizva, Asher Katafti, que j'ai écrite, les Horotam pour leur enseigner. Ben, Rish Lakish va nous dire, voilà ce que veut dire le verset. Quel est-il, je ne vois pas.
C'est au 25.
Voilà ce que veut dire le verset. L'Uchot, Eloua, c'est l'état du Bérot. Les tables, c'est les 10 commandements. Torah, c'est Mikra. La Torah, c'est le Mikra, le texte de la Torah. Amizva, c'est Mishnah. La Mizva, c'est la Mishnah. Asher Khatafti, que j'ai écrite, et Lulevim Tuvim, c'est les prophètes et les hagiographes. Léorotam, Zogmara, et pour leur enseigner, c'est la Gemara. Donc je récapitule. Les tables, c'est les 10 commandements. La Torah, c'est le Mikra. La Mitzvah, c'est la Mishnah, que j'ai écrite, c'est les Vim Ktuvim, les Rotam, c'est la Gemara. Oui, l'ordre, je reviendrai sur l'ordre tout à l'heure. Mais la Mitzvah Kulam, dites-nous, les Moshe Mishinaï, ça nous apprend que toutes ont été données à Moïse à partir du Sinaï. Ça veut dire toute la Gemara est enfermée dans le Tanakh, tout le Tanakh est enfermé dans la Torah. Et comme dit le Gaon de Vilna, en parlant de cela, toute la Torah est enfermée dans la Parashat Bereshit. Toute la parasha de Bereshit est enfermée dans le premier chapitre, et tout le premier chapitre est enfermé dans la lettre bête dont vous avez parlé tout à l'heure. Et l'histoire du monde commence avec la dualité entre le créateur et la créature, et toute la Torah, c'est pour nous apprendre comment se conduire dans ce monde qui commence par la dualité. Et la dualité entre le créateur et la créature est distribuée entre les créatures entre elles. Voilà pourquoi la Torah commence par bête et pas par aleph. L'unité des choses nous est cachée. Ce qui, le dévoilement commence à partir de la dualité. Et alors, pourquoi la Gemara a cité ce deuxième enseignement de Rish Lakish? C'est pour éclairer qu'est-ce que Rish Lakish entendait dans le premier enseignement par Torah, non, Yarasou Batorah. Et Torah, qu'est-ce que ça veut dire? La réponse de l'avant, la Torah, c'est le Mikra. C'est le texte de la Torah. Prenez Rashi. Rashi, vous l'avez là-haut. À la fin de la troisième ligne dans Rashi. Là. Bien. Alors, regardez. Torah Zumikra, qu'est-ce que dit Rashi? Chumash, c'est le Chumash. Chez Mitzvah, l'Ikroba Torah. Parce que c'est une Mitzvah de lire dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il appelle Torah sur cette Gemara? Le Chumash. C'est-à-dire le texte du récit depuis Bereshit jusqu'à l'entrée en Canaan. Et dans ce récit, il y a des versets qui enseignent les Mitzvot. Mais les Mitzvot, Mitzvah et Mishnah. Les Mitzvot, on les étudie dans la Mishnah. Et donc, lorsqu'on parle d'étudier la Torah dans ce contexte, ça veut dire étudier le récit de la Torah. Je dirai plus, mais je veux d'abord éclairer ce que je veux dire là pour que ce soit bien clair. Nous avons un récit qui raconte l'histoire d'Israël depuis la création du monde. Et dans ce récit, le Mikra, le Chumash, nous raconte qu'à l'occasion, Dieu a dit à Moïse, « Eh bien, tu leur diras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même? On ne l'étudie pas dans le récit, on l'étudie dans la Mishnah. Et alors, qu'est-ce que c'est étudier la Torah? Dans ce contexte, c'est étudier le récit. Ça veut dire que pour résoudre le problème moral, il faut que j'étudie ce récit historique des patriarches que la Torah me donne pour savoir comment Abraham différenciait le bien du mal, comment Isaac différenciait le bien du mal. Avec le code, ça ne me suffit pas. Il faut, parce que le problème moral existentiel, c'est comment la personne humaine se conduit dans la vie. Le modèle, c'est la vie d'Abraham, la vie d'Isaac. Il faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier homme pour savoir, pour comprendre comment un tzadik est tzadik et un rachar est rachar. Alors on nous raconte l'histoire des tzadikim et l'histoire des rachaim. J'ajouterai une clause là-dessus. Mais d'abord sur l'étude de texte à proprement parler, on m'a dit, si ça avait échoué, ta bonne volonté, t'as rassemblé pas Torah. Mais qu'est-ce que c'est Torah? Torah c'est Chumash. Alors ce qui est arrivé dans l'histoire des communautés, surtout en Europe, à peu près depuis 3-4 siècles, on a pu étudier le Chumash. On a pu étudier le Chumash, en tout cas dans le monde ashkénaze, c'est le Maharal qui a restauré l'étude du Chumash en tant qu'étude de Torah. Et alors, on s'est privé de l'essentiel, de l'éclairage, où est le bien, où est le mal. J'ai beau disposer d'un code minutieux dans le détail, et je ne saurais pas comment me conduire dans la vie pour réussir le bien et échapper au mal. Je tomberai dans un ritualisme, non pas dans un ritualisme, dans un rituel d'une secte religieuse. Alors que ce qu'il s'agit, c'est de réussir le projet du Créateur pour l'homme. Ce que je veux dire ceci, c'est que la halakha sans la Torah, c'est très dangereux. J'entends bien ce que je vous dis. Okay? Parce que pour que la halakha soit authentique, il faut que ce soit la halakha de la Torah. Je peux couper la halakha de la Torah et j'ai le sadducéisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien, en tout cas, voilà l'essentiel de ce que je voulais vous citer à ce sujet. Je résume les deux points importants. C'est en ce qui concerne l'histoire du premier homme, il s'agit de goûter du monde dans son essence de mélange des valeurs, de l'ambiguïté. L'exemple qui nous est donné par le Midrash, c'est l'intoxication, qui a pour résultat d'effacer la frontière entre le bien et le mal. Et tout l'effort de la lucidité de la Torah, c'est d'avoir la sagesse de la distinction.